Bonsoir. Bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Voilà, et bien, traditionnellement, cette dernière émission, on l'a dédiée en général à une petite sélection de livres et de coffrets cadeaux, DVD pour offrir à Noël. Puis finalement, cette année, on s'est dit, en fait, nous, on vous propose des cadeaux de Noël toute l'année. Hein, on a une sélection de livres du mois de janvier au mois de décembre qui convient à de très jolis cadeaux. Donc, on va vous parler tout simplement de nos coups de cœur, en commençant par des BD. Et si jamais vous voudriez vous remémorer quelques titres ou quelques auteurs, eh bien, on peut vous recommander d'aller voir sur notre site et d'aller plutôt écouter les émissions anciennes. Jacques, tu redis le site de la Noire Haute sur lequel on peut...
Le site de l'émission, c'est Onde Noire au pluriel, Onde avec un S à Onde et Noire avec un S à Noir.
Oui, on fait de la littérature, on ne fait pas
www.ondenoire.com et il y a 4 années d'émission pour l'instant.
Voilà, ce qui fait quand même beaucoup d'idées cadeaux. Alors justement, deux idées cadeaux, deux albums décidés. Moi, je préfère ce mot album dessiné d'ailleurs au mot bande dessinée et ici vraiment ça convient mieux. Ces deux albums ont pas mal de choses en commun. D'abord, le même éditeur, Casterman Rivage. Donc, ce sont des adaptations d'écrits de romans parus chez Rivage. Et justement pas, ici, ce ne sont pas des adaptations de romans, mais des adaptations de nouvelles. Ce qu'ils ont en commun aussi, c'est de faire exploser les cases et les bulles. Et c'est vraiment deux beaux objets dessinés. Donc, première adaptation de nouvelles, c'est une nouvelle de Denis Lehane, Coronado. Et puis le deuxième album présente deux nouvelles de Jean Hugo Pell rassemblées en un même album. Donc la première s'appelle Brouillard au pont de Billac, ce qui donne le titre à l'album. Et deuxième nouvelle, 58 minutes pour mourir, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est effectivement un hommage à Bruce Willis. Voilà. Donc dans le premier cas, par contre, là, on n'a plus de points communs. Coronado est mis en image par un des dessinateurs les plus connus, Lou Stahl. Par contre, les deux nouvelles de Jean-Hugo Pell sont dessinées par Gabriel Germain. C'est un inconnu, vraiment un illustre inconnu, sa première BD. Mais à mon avis, vu la qualité de l'album, ils ne veulent pas le rester longtemps. Reprenons un petit peu Coronado. Donc, tout petit résumé du début de l'histoire. Un personnage, Bobby, sort de prison et il va être accueilli par son père et une pute que veut lui offrir son père. Son père, en fait, il essaye d'avoir un peu les faveurs de son fils parce qu'ils ont cambriolé une pierre précieuse avant la prison et il aimerait bien retrouver cette pierre précieuse. Mais Bobby, lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver sa copine Gwen. Voilà, ça c'est le pitch et la descente aux enfers peut commencer. C'est donc une histoire vraiment très très noire de Denis Lehane, mais qui est assez étonnamment
Denis Lehane.
Pardon. C'est pas la peine de la ramener avec ton accent parce que attends la fin de l'émission. Donc, comme je disais, c'est une histoire très noire, mise en mots par l'auteur américain et somptueusement mise en image et en couleur surtout par un Lou Stahl vraiment très très inspiré. On a deux images par page avec le texte en dessous. En fait, on dirait un petit peu qu'il a voulu arrêter le temps, le figer, ralentir l'histoire, peut-être pour mieux nous imprégner de l'atmosphère qu'a voulu donner Denis Lehane. C'est très très réussi. Et puis pour les amateurs de voitures, il y a des dessins d'une Buick, une vieille bagnole américaine. C'est magnifique. Deuxième album donc, Brouillard au pont de Billac. De nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Celle-là, plus 58 minutes pour mourir. Dans la première, on se retrouve en ex-Yougoslavie. Les snipers se donnent à cœur joie pendant que d'autres tente des combines dans ce monde en folie. Comme partout dans les pays en guerre, il y a des mères qui pleurent. Le dessinateur a choisi le noir et le blanc et il a surtout choisi, et je trouve vraiment que c'est bien fichu, d'exploser les cases. D'ailleurs, exploser les cases pour un récit qui est au départ explosé, Jean-Hugo Pell racontant en bribes quelques histoires dans quelques endroits de ce monde en décomposition qu'est Billac. Donc il a vraiment, je trouve, Gabriel Germain, bien redonné l'atmosphère de cette ville et de cette
qui
nouvelle.
Qui a elle-même explosé, la ville.
Voilà. Donc en alternant courtes scènes où se débattent des personnages qui ont la malchance d'habiter cet endroit du monde, décidément, j'ai du mal à prononcer les mots. Enfin, dans la 12e nouvelle, qui s'appelle... 50 minutes pour mourir, pardon. Les cases vont un petit peu s'assagir. On est toujours en noir et blanc, toujours de la noirceur dans les propos. Et là, l'adaptation, ça a été de gommer les mots au profit des images. Il n'y a pratiquement plus de dialogue, enfin de texte. Et ça fait vraiment la part belle au dessin, au fond. Hein, ça se passe dans un aéroport. Il y a des hommes qui attendent. Et il y a un ours en peluche qui semble jouer un rôle important. Donc je rappelle le titre de ces deux albums. Coronado, Denis Lehane, adapté par Loustal. Deuxième album, Brouillard au pont de Biac, deux nouvelles de Jean-Hugo Pell, dessinées, adaptées par Gabriel Germain. Je pense qu'on reparlera de Gabriel Germain. Jacques.
En attendant, un petit peu de musique, de circonstances, puisqu'il fait froid. Donc, puis une chanson de Noël. Interprété par Sting, la musique est de Henry Purcell, le texte de Thomas Betterton, cet extrait de The Fairy Queen, qui est un opéra de Henry Purcell, adapté du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Et le morceau s'appelle Now Winter Comes Slowly. Chez nous, il est arrivé plutôt un peu vite.
Donc voilà, c'est un morceau qui rappelle un peu Noël, mais enfin un peu lointain quand même. C'est les Noëls d'antan, comme d'antan il y a très longtemps.
Plutôt pour l'hiver, donc.
Voilà, donc Jacques...
Eh bien en fait, là, je vais me faire un peu le spécialiste du polar brugeois sur cette antenne, parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des enquêtes du commissaire Van Hien. Eh bien là, je vais vous parler d'un antiquaire brugeois qui s'appelle Franz Bogert. C'est sa troisième... énigme, disons, enquête. Le roman est paru aux éditions du Castor Astral dans la collection L'Arcamonde, qui est aussi d'ailleurs par hasard le nom de la brocante de Franz Bogert. L'auteur est Hervé Picard. J'en avais déjà parlé, Hervé Picard a été pendant longtemps chroniqueur hard rock au magazine Best. Et là, tout d'un coup, il se devient un spécialiste des objets anciens. Dans cet épisode, Franz Bogert, il va être confronté à une superbe créature toute de rouge vêtue. Ornella de Volder, évidemment italienne d'origine. Cette femme,
comme son nom ne l'indique pas.
Mais Ornella, si. Cette femme va lui confier un objet, un de ces objets qui, dans cette collection, entraîne Franz et son assistante, la belle Lorraine, bien loin dans d'étranges aventures. Un objet pas ordinaire qui devient toute une histoire. Cette fois-ci, il s'agit d'un cœur de gloire. Comme le titre du roman que je ne vous ai pas dit, Le cœur de gloire, donc. C'est un objet, c'est un bijou, en fait, qui contient un liquide rouge qui est présumé être du sang.
Et le sang du Christ, non?
Non, pas,
non,
du
pas
tout.
Bon.
Comme j'allais le préciser, en fait, je vous laisse à votre... soit lire le roman, soit si vous ne voulez pas lire le roman et savoir ce que c'est qu'un cœur de gloire, et ben vous tapez sur Google ou sur Bing, et puis vous aurez quelques renseignements. Comme dans les précédents épisodes, donc, puisque c'est une série qui va en comporter 12, et là c'est le troisième, Franz enquête sur les objets du passé, mais avec évidemment des moyens modernes, des nouvelles technologies, analyses diverses, Internet, etc. Le bijou semble provenir d'une ville de Toscane, San Gimignano, une ville qui est célèbre pour ses tours. Elle avait, paraît-il, plus de tours que New York à une époque. En plus, comme New York, elle en a eu un peu moins récemment, San Gimignano doit en avoir un peu plus. Mais en fait, il va aussi enquêter sur Ornella, son mari et son amant. Alors on se demande assez vite si l'enquête ne va pas se résumer à un simple trio amoureux qui se brise. Et puis non, en fait, parce que en fait, là, l'intrigue est assez bien menée. La dernière fois, j'avais mis un peu des restrictions parce que je trouvais qu'il s'arrêtait un peu pour raconter tout. Là, c'est vachement bien et c'est impeccablement fait parce que le brocanteur est lui-même pris à part dans l'histoire. Et il va quitter son rôle de simple Sherlock pour devoir se protéger lui-même. Ça se lit très vite, c'est réjouissant. Il y a même un clin d'œil à Vanine dont je parlais tout à l'heure, car à un moment, ils se retrouvent, les deux enquêteurs, dans un bar, une bière à la main. Il faut dire que ça se passe l'été à Bruges. Il fait chaud, et à Bruges, ils ne sont pas habitués. Donc quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On boit une bière.
Oui, puis ça va, ils ont le choix. Hein.
Donc voilà, je vous recommande, c'est vraiment j'allais dire un délice, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est assez sympa à lire par rapport à certains romans noirs dont on vous parle d'habitude.
C'est peut-être un petit peu plus léger, quoi.
C'est plus léger. Je vous rappelle donc Hervé Picard, Le cœur de gloire, la troisième enquête de l'antiquaire Franz Bogert, paru au Castor Astral.
Voilà. Eh bien, moi, je vais revenir à Nice. On va partir de Bruges, on va faire vers Bruges-Nice, pour un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « L'hiver continue au fond du magasin », un roman de Françoise Laurent, et c'est paru cette année aux éditions Krakoen. Dans ce roman qui se passe donc à Nice, nous allons en gros découvrir les habitants d'une maison. On a Magali, c'est une maniaque de la propreté. Elle habite la même maison qu'Angèle et son mari Jean-Robert. Maison qui appartient à Lisiane, qui occupe, je crois, si je ne m'abuse, le rez-de-chaussée, mais enfin, tout au moins, elle habite aussi dans le même endroit. Lisiane, très esselée, malgré son mari, Baudouin, médecin, souvent absent, et ses deux enfants qui, maintenant, travaillent au loin. Jean-Robert, dont je vous ai déjà parlé, lui végète après son accident de voiture, et Angèle, sa femme, survit très difficilement. C'est un couple un peu bizarre. Tout d'un coup, dès le début du roman, un incendie va venir raviver leurs blessures et les lourds secrets qu'ils tentent désespérément d'oublier. Et dans cet incendie, Sophie, une ex-amie de Magali, qui l'a trahie d'ailleurs, est retrouvée morte dans la forêt calcinée. Mais petit à petit, on se rend compte que les deux amies, Magali et Sophie, connaissaient aussi Jean-Robert. Jean-Robert, ou peut-être était-ce Étienne ? C'est vrai, ils se ressemblent tellement. Tous semblent en fait avoir des liens avec la morte et des relations suffisamment troubles pour leur donner un prétexte à se venger. Françoise Laurent, là, elle se régale, elle nous régale aussi, à emmêler les fils de cette intrigue, dont on n'est même pas sûr au demeurant que cela en fût vraiment une. Et que je te colle Magali jalouse de son amie d'enfance, et que je te surprends Jean-Robert à hanter les lieux brûlés, complètement fasciné par le feu. C'est normal d'ailleurs, puisque il ne travaille plus depuis un accident de voiture qui a ruiné sa carrière et sa voiture a fini brûlée. Et que je te colle aussi Étienne, le frangin, et Angèle dans les bras l'un de l'autre. Tout cela d'une plume enlevée, un petit peu cynique, un petit peu rigolote d'ailleurs, qui sait tour à tour se teinter de sombre ou s'éclairer d'une ironie plutôt mordante. L'auteur, j'en avais parlé de son ancien roman qui s'appelait Dola, de son précédent roman, aux mêmes éditeurs, les éditions Krakoen. Donc, elle nous entraîne toujours dans un espèce d'univers particulier, tout à la fois, empreint de noirceur et de drame, mais aussi de tendresse et d'humour. On avait beaucoup aimé Dola, donc, comme je viens de le dire, qui a 2 ans, je crois. Mais je trouve que là, sa plume, elle s'est encore enrichie et elle a encore fait des progrès. Elle est peut-être plus aboutie, l'écriture est resserrée, les dialogues sont plus percutants. On évite toute petite digression, c'est vraiment un petit régal. Donc, l'hiver continue au fond du magasin. Vous comprendrez le titre en lisant le roman. Au départ, ça paraît un petit peu surprenant. Aux éditions Krakoen, Françoise Laurent. Donc, un roman qu'on a d'autant plus plaisir à lire qu'il se passe dans la région. Ça fait toujours plaisir de retrouver des endroits connus. À tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission.